Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Quel est le point commun entre Simone Veil, Keith Richards, Isabelle Huppert, Bill Gates, Vincent Bolloré, Jean-Jacques Goldman, Hillary Clinton, Jacques Chirac ou Anne Sinclair? Ils ont été scouts. Coup de projecteur ce matin sur les bienfaits du scoutisme, un mouvement créé par l'américain Robert Baden-Powell, à l'origine un mouvement éducatif d'origine chrétienne qui a essaimé dans d'autres religions et qui connaît des versions laïques non confessionnelles, une image plutôt positive auprès d'une majorité de Français pour de multiples raisons. Apprentissage des valeurs collectives dans un monde individualiste, de la débrouillardise, de la citoyenneté, de l'engagement social et environnemental. Nous verrons également pour quelles raisons certains parents refusent d'y inscrire leurs enfants. Nous essaierons d'y voir plus clair également entre les différentes branches du scoutisme. Et vous, racontez-nous vos souvenirs du scoutisme. Y avez-vous inscrit vos enfants? Ou alors, il en est hors de question, 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser des notes vocales sur l'appli France Inter. Bonjour Gwenaëlle Boulet.
Bonjour.
Vous êtes venue avec votre fille, hein, qui est scout.
Eh oui.
Votre chronique Ma vie de parent s'adressera aux parents qui ne souhaitent pas envoyer leur progéniture chez les scouts, c'est ça? Ou
non,
ce sera plus laudateur que ça?
Non, mais aujourd'hui, en fait, j'ai failli vous parler de cette folle semaine quand même. On a dû faire les tests numéro 1, 2, 10. Mais bon, le petit castor bondissant qui est en moi a décidé de crier son amour pour le scoutisme.
Ah, voilà, je me disais bien. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Bruno, depuis quand fais-tu du scoutisme?
Ben, j'entame ma 5e année.
Et ça te plaît?
Ben, énormément, oui. C'est pour ça que je continue.
Et pourquoi ça te plaît?
Je sais pas, il y a une ambiance de camaraderie. On s'entend bien tous ensemble. Puis, ça sort de l'ordinaire un peu, disons.
C'est toi-même qui as choisi d'être scout?
Au début, non, mais après, j'ai vu que ça m'a plu et j'ai continué de mon plein gré.
Mais tu préfères passer tes week-ends ou des vacances avec tes parents ou ici? Ou avec les scouts?
Disons que c'est pas pareil, je préfère quand même être ici parce que bon, on est un peu plus libre, on est dans la nature, on fait plus de choses.
Extrait de l'émission Aujourd'hui Madame en octobre 1981. Bonjour Ada Abdelli.
Bonjour Ali, comment allez-vous?
Ça va très bien, vous êtes comédien, humoriste, co-créateur de la série Vestiaire sur France 2. Vous publiez avec Cédric Gorbani une BD, Les Scouts. Le premier volume, Paroles de Scouts, est publié chez Michel Lafon. Est-ce que vous avez repéré mon erreur volontaire dans l'introduction concernant Baden-Powell?
Oui, et dans l'esprit scout, je n'ai pas souligné, je n'ai rien dit. Je vous ai laissé croire qu'il était américain.
Mais c'était pour vous piéger, il n'est pas américain.
Il est algérien, Robert. Évidemment.
Mais non, il est britannique.
Ah pardon, oui.
Il est britannique, bien évidemment. Bonjour Marie Mulet à Brassard.
Bonjour.
Vous êtes présidente des scouts et guides de France et vous êtes scout depuis l'âge de
7 ans.
Bonjour Christophe Carichon.
Bonjour.
Vous êtes historien et chercheur associé au Centre de Recherche Bretonne et Celtique de l'Université de Brest, spécialiste de l'histoire du scoutisme et vous publiez chez Artege, Grande figure du scoutisme. Vous avez été scout vous-même?
Oui, oui, une vingtaine d'années.
Depuis
l'âge de 9 ans.
Bon. Bonjour Louis Devaux.
Bonjour.
Vous avez 19 ans et vous êtes inscrit aux éclaireuses et éclaireurs de France depuis que vous avez 6 ans, c'est bien ça?
C'est exact.
Et vous êtes bénévole animateur scout. Bonjour Salomé.
Bonjour.
Est-ce que j'ai le droit de te tutoyer?
Oui.
Bon, alors tu as 12 ans, tu es en 5e et tu as été Jeannette. Tu portais alors une chemise orange.
Oui.
Et tu es désormais guide avec une chemise bleue ou un polo bleu. Tiens, quelle est la différence entre les scouts et les guides, Salomé? Les guides, c'est des filles, c'est ça?
Oui. Et les scouts, c'est les garçons.
Voilà, exactement. Tu nous diras tout à l'heure ce que tu aimes dans le mouvement scout. Alors, Christophe Carichon, d'où vient le nom scout?
Scout, c'est éclaireur. Alors, on dit que ça vient du vieux français escout. Aller en escout, c'était aller en éclaireur, justement, au Moyen-Âge. Le terme est ensuite passé en Angleterre et il est revenu en France. Boy Scout, donnant les scouts de France. Alors, les éclaireurs de France et puis les éclaireurs unionistes de France, eux, il y a une centaine d'années, avaient préféré franciser le terme.
À grand trait, comment est né le mouvement scout? La figure la plus connue, on l'a cité, c'est évidemment Robert Baden-Powell. fondateur du scoutisme. Dans quelles conditions il a créé ce mouvement?
Alors c'est un officier britannique, en effet, comme vous l'avez très justement dit. c'est un officier colonial. Il a servi en Afghanistan, donc dans les années 1880-90. Il a servi aux Indes. Il a servi en Afrique du Sud. Mais c'est pas un officier de troupe comme tout le monde. C'est un poète. C'est un officier de renseignement. C'est quelqu'un qui aime le théâtre, qui aime chanter, qui aime faire d'autres choses. Et surtout, il aime observer. Et en rentrant en Angleterre, après le siège de Mafeking pendant la guerre des Boers, où il est devenu un héros pour tous les Anglais, il observe les jeunes qui sont dans la rue, il observe également l'industrialisation, et il se dit que ces jeunes ont besoin de quelque chose, ils ont besoin d'un idéal. À l'époque, c'est celui de la chevalerie, et il va lancer ces jeunes. Il va commencer par un camp expérimental en 1907 au sud de l'Angleterre.
Dans le Dorset, avec 20 garçons.
C'est ça, une vingtaine de garçons, mélangés socialement, dit-on d'ailleurs. Et puis, il leur apprend à faire du feu, il leur apprend à cuire leur nourriture, à chanter. Il leur apprend des chants indiens. Il aime beaucoup toutes ces anciennes cultures. Et ça va partir comme un feu de forêt ou un feu très rapidement. Donc l'Angleterre d'abord, les garçons, et puis en France, dès 1911, avant la Première Guerre mondiale, ça vient par les IMCA, donc les Unions Chrétiennes de Jeunes Gens Protestantes, qui vont créer des sections de scouts, enfin d'éclaireurs en tout cas, à Paris, rue de Grenelle, et puis également à Nantes. Ensuite viennent les éclaireurs de France, dans ces mêmes années, 1910-1911, les éclaireurs français du baron Pierre de Coubertin, l'un des fondateurs des Jeux Olympiques. Pour les catholiques, beaucoup plus difficile, puisqu'il y a quelques unités à Nice et à Paris qui se créent avant la guerre et pendant la guerre, mais la hiérarchie catholique est au début très opposée à ce mouvement qui nous vient des Anglais, qui est proche, semble-t-il, de la franc-maçonnerie pour certains, et puis également qui un petit peu panthéiste, voyant Dieu dans la nature, quelles que soient les circonstances. Donc les catholiques vont se méfier, et il faudra attendre l'après-guerre pour que les scouts de France soit fondée par quelques grandes personnalités du mouvement.
Est-ce que vous souscrivez à ce que dit l'historien Johann Chapoutot de Baden-Powell et du scoutisme? Le scoutisme a été créé par un ancien militaire colonialiste pour former la jeunesse à la dure au fin fond des forêts avec un brin de camaraderie. Ça vous paraît juste ou pas?
Non, c'est faux. C'est faux. Alors, ancien officier colonial, oui, ça c'est certain, mais Baden-Powell s'est toujours opposé à ce que le scoutisme soit une organisation paramilitaire. Il s'est toujours opposé aux exercice militaire, et évidemment l'uniforme qu'il leur a donné au début était un uniforme pratique, mais il faut imaginer que se mettre en culotte courte dans les années 1920, 1910, 1930 était assez mal vu, que des filles aillent galoper dans la forêt avec des garçons, et là je parle des louveteaux, était également très très mal vu. Et donc non, au contraire, on est face à un pédagogue novateur, ouvert. Alors c'est vrai qu'il y a de la camaraderie, mais la camaraderie est quelque chose, après tout, une valeur très positive.
Et quel a été le rôle de la femme de Lord Baden-Powell, Olave Baden-Powell, dans l'essor du scoutisme féminin?
Alors, il se marie sur le tard, Baden-Powell, avec en effet une fille de la bonne société britannique, pas toujours très commode. Une très bonne biographie qui vient de sortir sur elle de Philippe Maxence, d'ailleurs. Et Olave va travailler avec la sœur de Baden-Powell à justement le développement des guides, des Girls Guides en Angleterre. Parce que les jeunes filles, en effet, eh bien, elles ont voulu faire comme leurs frères. Elles trouvaient pas normal qu'elles n'aient pas le droit, elles aussi, d'avoir un uniforme, de courir dans les bois, et puis d'aller camper surtout. Alors, pour les filles, ce sera plus difficile, mais en raison de l'époque surtout, mais très très vite, les guides de France, ou les éclaireuses, en tout cas en France, israélites, les éclaireuses protestantes, les éclaireuses de France, eh bien, se sont affirmées comme des filles de caractère et faisant de l'excellent scoutisme.
Tiens, Salomé, qu'est-ce qui t'a donné envie d'intégrer le mouvement scout? Explique-moi un petit peu.
Bah au début c'est ma maman qui m'a apporté là-bas pendant une année.
Gwenaël Boulet.
Oui, je confirme.
Et puis j'ai aimé, on a campé pendant une semaine et j'ai beaucoup aimé, du coup j'ai décidé de continuer. Et là, c'est ma cinquième année et j'aimerais continuer jusqu'à...
Toute ta vie.
Oui.
Bravo. Et t'as jamais redoublé. Bravo.
Comment se repérer dans la galaxie des scouts et des éclaireurs? Or, les deux plus grandes organisations sont dans l'ordre, les scouts et guides de France, et ensuite les éclaireuses et éclaireurs de France. Aidez-nous à nous repérer, à faire la différence entre les deux.
En fait, donc le scoutisme...
Marie Mulet à Brassard.
Le scoutisme s'est développé au niveau mondial, donc il y a un mouvement mondial des scouts, côté garçons, un mouvement mondial des guides côté filles. Ce mouvement mondial, ces mouvements mondiaux, ils reconnaissent dans chaque pays un certain nombre d'associations. En France, ils reconnaissent la Fédération du scoutisme français qui regroupe 6 associations. Les scouts et guides de France pour les catholiques. Elle reconnaît aussi les israélites, les protestants, les laïcs, les bouddhistes et les musulmans. Mmh. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Fédération du scoutisme français, mais c'est 6 associations qui et 6 associations différentes. Et en France, on a 2 autres associations, ce qui nous fait 3 mouvements catholiques, avec les scouts unitaires de France et les guides et scouts d'Europe. Il y a donc 3 mouvements catholiques. Les 2 autres ne sont pas reconnus par les mouvements mondiaux.
Louis Devaux, quelle est la spécificité des éclaireuses et éclaireurs de France par rapport aux scouts et guides de France ?
Alors, d'abord, vous l'avez dit, c'est la laïcité. C'est le fait que... D'ailleurs, non, vous ne l'avez pas dit. Mais en tout cas, vous avez dit que les EDF étaient non confessionnels. Et c'est vrai, notre éducation, enfin l'éducation populaire que nous proposons s'adresse à tous et à toutes, sans distinction de croyance. Alors, chez les scouts et guides, c'est aussi le cas. Tout le monde peut aller chez les scouts et guides. Cependant, l'éducation prodiguée sera confessionnelle. Donc c'est principalement notre différence, mais du reste, nous restons dans les mêmes pratiques et nous entendons très bien entre nous.
Hein. Évidemment, il y a des valeurs communes entre les scouts et guides de France et les éclaireuses et éclaireurs de France. Le respect, l'entraide, la bienveillance, bien d'autres choses, Marie Mulet-Brassard.
Les axes du scoutisme sont les mêmes. La méthode scout est la même. L'environnement peut être différent, mais c'est comme une rue dans Paris avec des pizzerias, en fait. On peut avoir... une pizza reine et une royale. Globalement, il y aura la même chose dessus, mais il y a la teinte et cette rue, elle a besoin de toutes ces pizzerias. C'est la même chose pour le scoutisme. On a besoin de ces différents mouvements, mais ils ont la même chose. Et c'est pas qu'une question de valeur, c'est vraiment la question de la méthodologie et de la pédagogie derrière, avec la vie en collectif, la relation éducative, la vie dans la nature, la relation à l'autre, et ces valeurs-là, cette méthodologie là, elle se déploie de la même manière dans ces 6 mouvements.
Combien d'adhérents pour l'ensemble du mouvement scout en 2018? 125 000 adhérents contre 75 000 en 2012. Je crois savoir que le nombre de scouts d'éclaireurs ne cesse d'augmenter. Vous confirmez?
Ouais, alors je confirme. En tout cas, moi, je peux parler pour les scouts et guides de France. On a 91 000 membres aujourd'hui, dont 64 000 jeunes. 27 000 personnes engagées bénévolement auprès de ces jeunes-là. On a progressé de plus de 30% en 10 ans.
Grâce à ma BD, d'ailleurs, il faut le dire.
Et la BD va nous aider, je ne doute pas qu'elle va nous aider. Et donc, oui, il y a une forte progression de tous les mouvements scouts en France.
Christophe Carichon, vous confirmez ?
Oui, je confirme. Et puis, en effet, pour compléter ce que disait Marie, citer les 2 autres mouvements, donc les scouts unitaires de France et les guides et scouts d'Europe, qui tournent autour de 30 000.
Plus traditionnalistes.
Dans la pédagogie, oui. C'est les fractures du scoutisme, si on en reparle tout à l'heure, sont d'abord venues pour des raisons pédagogiques et puis ensuite elles ont pu aller vers l'idéologie. Mais globalement, on est donc vers un total de 130 000 environ, ce qui est peu et beaucoup en même temps.
Adab Deli, comment découvrez-vous le scoutisme? C'est grâce au manuel des Castors Juniors ou à la collection Signes de Piste ou à toute autre chose?
Alors, je lisais beaucoup les Castors Juniors déjà, Donald et ses petits neveux. Non, mais en plus, ce que j'aime bien dans le scoutisme, c'est qu'en général, on a d'abord une idée un peu préconçue avant d'y venir, et puis on n'a plus envie de partir. Et donc, moi, j'avais une idée un peu, bon, j'imaginais un prêtre avec la soutane, tout ça, la messe toute la journée, etc. Et en fait, à l'époque, des jeunes sont venus nous voir.
Vous viviez à Marseille à l'époque ?
Je vivais, oui, à Marseille. Là, ils ont la chance de m'avoir. Donc, j'étais à Marseille déjà à l'époque. Ouais. Et on nous proposait une sortie avec les scouts, et je ne savais pas du tout ce que c'était. Je suis allé pour voir, et voilà. J'y suis allé, goûté, c'est adopté. Donc j'y suis allé, j'y suis resté 10 ans.
Vous avez vécu au sein d'une famille algérienne, d'origine algérienne, de confession musulmane. On peut entrer chez les scouts et guides de France sans être chrétien? C'est une question un peu bête, mais
on peut se poser. Non, elle n'est pas bête. Comme on le disait, c'est un mouvement qui est ouvert à tous et c'est même fondamental qu'il soit ouvert à tous. Et d'ailleurs, je pense que quand on est un mouvement catholique, le fait d'être catholique fait qu'on doit être ouvert à tous. Donc on accueille tout le monde sans distinction de confession, d'origine politique, d'origine sociale.
C'est donc un cliché de croire que le scoutisme, ce n'est que pour les cathos.
Oui. C'est un cliché de croire que ça n'est que pour les cathos, c'est un cliché de croire que ça ne serait que pour les CSP plus. C'est d'ailleurs ce qu'on disait, le premier camp, il est ouvert à tous les milieux, à tous les milieux sociaux, et c'est ça la richesse du scoutisme.
Et je cite d'ailleurs l'article 1 des statuts des scouts et guides de France, l'association est ouverte à tous, sans distinction de nationalité, de culture, d'origine sociale ou de croyance, et c'est ce que vous avez vécu pendant 10 ans, Ada Abdelli.
Oui, et alors en plus, moi, ça se voit pas et ça s'entend pas du tout, je suis handicapé moteur. Donc c'était encore quelque chose, dans les années 80, un groupe de valides qui accueille un handicapé avec des béquilles, c'était pas évident. Et en fait, il fallait s'adapter. Puis surtout, on m'a tenu un discours que je connaissais absolument pas, où on me demandait, alors que j'arrivais avec mes béquilles, j'étais dans un milieu plutôt protégé, et on me demandait de faire le même effort que tout le monde. Et ça, c'est un truc que je connaissais pas. Donc j'ai découvert aussi l'autonomie, c'était le plus important pour
moi. Et d'ailleurs, Nicole nous dit que le scoutisme a été une école du savoir-être. Ça a été votre cas ?
En tout cas, du savoir-être, non, parce que j'ai toujours été un être un peu exceptionnel, mais du savoir-faire, en tout cas, oui. Oui, et surtout le truc que je garde en tête, c'est d'aller voir les gens, même en permanence. C'est-à-dire quand il y a une soirée, un événement où quelqu'un est de côté, je vais spontanément le voir. Et ça, c'est le scoutisme.
Tiens, nous accueillons Simon. Bienvenue, Simon.
Bonjour.
Bonjour. Tu as 11 ans, c'est ça ?
Oui.
Tu es scout depuis quel âge ?
7 ans.
Qu'est-ce qui t'attire dans le mouvement scout, chez les scouts ? Qu'est-ce qui te plaît ?
C'est le contact avec la nature, qu'on nous apprend à être autonome avec tout ce qui pourrait être dangereux. Le feu, les couteaux, il nous apprend à être en sécurité avec tous ces éléments-là. À construire des cabanes avec les nœuds de base, les brelages et tout, à être en relation avec les autres, et la solidarité, et surtout beaucoup de solidarité, ne pas être divisé en plusieurs groupes, et surtout être en solidaire avec les uns et les autres.
Est-ce que ça t'aide dans la vie quotidienne, à l'école, le fait d'être scout ?
Oui, ça m'aide beaucoup à être en contact avec les autres, ça m'apprend à trouver les bons mots pour pas les blesser, si jamais ils seraient tristes, à les remettre, à trouver les bons mots,
à les consoler,
à être tolérant avec les autres.
Salomé, tu te retrouves dans ce que nous dit Simon ?
Oui, totalement.
Ouais. Pourquoi ?
Parce que c'est vrai, ça aide à l'école comme dans toutes les autres activités. On peut être à côté des gens plus timides et plus populaires.
Toi, ce qui te plaît, on en a un peu parlé avant l'émission, c'est la liberté. Liberté par rapport aux parents.
Oui.
Ta mère qui est d'ailleurs à côté de toi.
Oui, ce que j'aime bien chez les Bleus, donc... Scout et guide de France, on a 2 semaines ensemble de camp pendant l'été, et donc c'est vraiment on construit un peu notre maison et on est un peu comme une deuxième famille.
Et puis c'est le fait d'être en autonomie aussi, en auto-éducation.
Oui. Hein.
Je peux juste rajouter un truc, tu parlais de camp et de... C'est, tu le sais pas encore, mais tu vas vite le découvrir. C'est qu'en fait, on se fait des amis qu'on garde à vie.
Oui.
Moi, mes amis, ils ont la plupart des personnages, d'ailleurs, ça fait 40 ans que je les connais.
Gwenaëlle Boulay, vous confirmez ?
Ah ben moi, ma meilleure amie, Anne, si tu m'entends, s'est connue au scout sous la tente. Ouais. Et c'est vrai que ce sont des amitiés très fortes. Oui. Alors, on peut vivre plein de choses en colo, il y a d'autres lieux, je veux dire, pour vivre la sociabilité, évidemment, il n'y a pas que le scoutisme. Mais c'est vrai que moi, je suis très 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 sensible, j'en reparlerai tout à l'heure, mais par exemple, au rituel. Je trouve que les rituels scouts, par exemple, faire sa promesse au coin du feu, c'est quelque chose dont on se souvient tous. C'est-à-dire que la promesse, pour ceux qui connaissent pas, c'est le moment où on peut faire le signe avec les doigts du scout. Mais ça nous fait entrer dans une communauté. Et le fait d'avoir des rituels, d'acquérir des compétences incarnées par des badges qu'on met sur nos chemises, etc. Ce sont des étapes comme ça. Et cette pédagogie qui est assise sur les rituels, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a énormément structurée.
Marie Mulet-Abrassard.
Ouais, ça construit la personnalité, en fait. Le scoutisme, je pense que si on devait différencier avec l'écolo, où on pourrait avoir la sociabilisation, la question de l'amitié, etc., le scoutisme, c'est le temps long, en fait. C'est la pédagogie du temps long, et donc je construis ma personnalité, mon rapport à l'autre. J'apprends à faire des concessions, à faire des compromis. Quand j'ai 14 ans et que je monte mon projet l'été, j'apprends à défendre mon projet, à parler en public. J'apprends à aller chercher des subventions. Donc ça construit qui je suis dans la société, ça construit mon engagement. Et quand on parle de la promesse, qui peut être un peu décriée, un peu moquée quand on est en extérieur, mais en fait la promesse, c'est être capable à un instant T, quand j'ai 8 ans, de dire je m'engage à quelque chose. Et ça, dans une vie, à la fois ça marque, mais surtout ça porte la question de la valeur d'une promesse. Voilà. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, promettre, eh ben, c'est quelque chose sur lequel on attend les jeunes. Et je pense que quand on regarde, vous les avez cités au début, il y a plein de gens qui ont fait du scoutisme, l'engagement dans la société et dans la vie ensuite, y compris la vie publique, elle est hyper forte. Et je pense que ça se construit dans le scoutisme.
Christophe Carichon.
Oui, et puis à la différence des colonies de vacances, là encore, comme vous l'avez dit, les scouts, les guides, les louvettes, les Jeannettes se rencontrent toute l'année. Le samedi, dans un local, alors qu'ils essayent d'aménager, donc ils forment vraiment, en effet, comme le disait Salomé, une autre famille, mais la famille heureuse au fond des bois.
C'est aussi le cas. Moi, j'ai été animateur pendant longtemps en centre aéré à la mairie de Toulouse. Les enfants aussi, dans les centres aérés, peuvent se retrouver tous les mercredis pendant les petites vacances et grandes vacances et au long cours. Tiens, merci beaucoup, hein, Simon, de nous avoir appelé. Tu as un camp scout ou une après-midi scout tout à l'heure?
Non.
Pas aujourd'hui, d'accord.
Dans une semaine, le dimanche.
Tiens, petite question. Pendant le premier confinement, avec la crise sanitaire, ça t'a manqué, les scouts?
Pas vraiment, parce qu'on a continué à faire des activités en visio.
Ah, d'accord.
Du coup, après, on a récupéré l'insigne des scouts à la maison.
D'accord. Bon, ben merci beaucoup, hein, Simon, de nous avoir appelé. J'aimerais qu'on accueille le docteur Patrice Huert. Bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste et vous avez récemment publié « Jouer un moteur pour la vie ». Nous vous avons invité récemment dans cette émission. Sarah, Simon, nous parlait de liberté, une liberté intimement liée à l'autonomie. Pourquoi est-ce essentiel à la construction des enfants et des adolescents, Patrice Huert?
Les enfants et les adolescents, et c'est vrai aujourd'hui comme ça l'était hier, ont besoin pour se construire de relations entre eux qui soient médiatisées par des adultes en qui ils ont confiance et de pouvoir expérimenter toute forme d'aventure qui leur procure l'idée que le monde est à découvrir et stimule la curiosité et l'envie de grandir.
Ada Abdelli nous disait que ça a aidé à construire la personnalité. C'est peut-être vous plutôt, Marie Mulet-Abrassard.
Non, c'était moi.
Vous êtes vraiment un coucou, hein, Ada Abdelli. Hein. ça aide à construire la personnalité, ce type de lieu de socialisation chez les enfants.
Les enfants vivent avant tout dans leur famille, ils ont ses repères et ses références, et ils découvrent dans ces univers extérieurs, le scoutisme ou d'autres activités groupales, d'autres manières d'être ensemble, d'autres manières de construire des projets, et cette ouverture sur un monde qui n'est pas forcément uniquement celui qu'ils connaissent à la maison, donne l'envie d'explorer, donne l'envie d'aller de l'avant, si vous voulez, puisque c'est le passage des références que l'on a avec ses proches immédiats, parents, frères, sœurs, etc., vers un univers que l'on va partager avec d'autres. Et donc ça, c'est une expérience évidemment tout à fait enrichissante qui va bien au-delà de ce que l'école propose, puisque l'école française, malheureusement, est encore un peu, chacun doit apprendre, mais la vie groupale n'est pas encore ce qui est le plus stimulé.
Marie Mulet-Abrassard, quels sont les types d'activités qui facilitent l'autonomie des enfants et des adolescents dans un camp scout? Donnez-nous un exemple.
Alors, en fait, la méthode scout, elle se concentre autour de la question collective et donc de la vie d'équipe. Et donc, j'apprends à être dans une équipe qui se répartit les responsabilités. Donc, pour que la vie quotidienne s'orchestre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit particulièrement responsable du déjeuner, quelqu'un particulièrement responsable de la santé, quelqu'un particulièrement responsable. Donc, je prends des responsabilités et je les prends sur un temps donné. Et je vais en avoir plusieurs au cours des années en fonction des tranches d'âge. Donc, ces responsabilités, elles me sont confiées et je les exerce dans mes activités. Donc je peux être en charge de l'animation d'un grand jeu et puis plus je grandis, je peux monter des projets et là par exemple je vais être en charge d'aller chercher des subventions, d'aller parler au maire de ma ville pour aller lui demander de m'aider sur telle ou telle activité. Donc il y a un nombre à foison de possibilités en fonction de ce que les jeunes décident. Et c'est ça qui est hyper important, on pourra y revenir, mais la question de la démocratie chez les scouts et guides de France, elle est hyper importante. Et donc j'apprends à avoir un avis, à me construire un avis, à le défendre, à voter et ensuite à faire avancer le groupe avec ce qu'on a décidé tous ensemble. Et donc ça, c'est aussi un apprentissage de l'autonomie.
Merci beaucoup à Dr. Patrice Huère pour votre éclairage. Dans quelques instants, nous continuons à explorer le monde scout. N'hésitez pas à nous raconter vos souvenirs et à nous dire pourquoi vous avez inscrit vos enfants dans le scoutisme. 01 45 24 7000. Toujours prêt, c'est la devise des scouts, c'est ça?
Exactement.
Pourquoi cette devise?
Alors là, je laisserai l'historien peut-être
Christophe Carichon en quelques mots.
Be prepared, le scout doit être toujours prêt à servir de son mieux. Et là, je viens de vous donner également la devise des aînés, servir, la devise des chefs. Et de son mieux, c'est la devise des plus petits, donc des louveteaux et des louvettes et des jeannettes.
Allez, on écoute Norah Jones, Don't Know Why.
Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly. My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die.
Et on vient d'écouter Norah Jones, Don't Know Why.
Vous C'est vous dire qu'avec un chef tel que Jean-Baptiste, les plus pures traditions du scoutisme seront respectées à la lettre.
Grand bien vous fasse.
Scout toujours ?
Ali Rébéi.
Depuis que je suis parti, ces petits monstres n'arrêtent pas de me persécuter. Ça fait 2 nuits que j'ai pas fermé l'œil. Moi, il me faut mes 9 heures.
Et on s'intéresse ce matin aux bienfaits du scoutisme, standard ouvert au 01 45 24 7000. Vous pouvez également nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter.
Habitué au béton du milieu urbain, et pour son premier séjour en camp, Bill a déjà tout du parfait scout.
Attends, on scie à la moitié.
Il vient d'ailleurs d'être nommé chef d'équipe, une promotion prise très au sérieux.
C'est génial, il y a de la responsabilité, si jamais des gars font des bêtises, c'est nous qui prenons parce que... On est un responsable.
Comme Bill, la plupart de ses enfants participent à leur premier camp de scout.
C'est super parce que on apprend à être débrouillard, on fait plein de constructions, on fait à manger.
On dort sous la tente, on fait des jeux en forêt, ça change d'habitude.
Sur le camp, des enfants de toutes confessions religieuses, issus pour la plupart de quartiers populaires, loin de l'image conservatrice longtemps associée au scout.
On a vraiment envie de casser les clichés. Le scoutisme, c'est s'ouvrir vers les périphéries. C'est vraiment important d'aller dans les endroits où il n'y a pas d'activité, où les jeunes sont laissés pour compte.
Extrait du JT de TF1 en juillet 2018. Alors, un sondage Opinionway de 2018 indique que 67% des sondés ont une image positive du scoutisme. 42% se disaient même prêts à y mettre leurs enfants. Que recherchent les parents en inscrivant leurs enfants? Marie Mulet-Abrassard, présidente des scouts et guide de France.
Je pense qu'ils recherchent plusieurs choses. Il y a vraiment la question de que leurs enfants puissent vivre en collectif et dans la nature. C'est les deux thématiques sur lesquelles la plupart du temps ils nous disent pourquoi ils les inscrivent. Qu'ils puissent vivre autre chose que chez eux, dans leur cercle familial, devant les écrans. C'est une autre manière de vivre du collectif. Ils viennent aussi chercher un certain nombre de valeurs. Donc ça, elles sont différentes en fonction des familles.
Mais essentiellement, peut-être la solidarité. Solidarité, la paix, l'égalité et l'entraide, la protection de la nature.
Ouais. Et puis pour les petites filles aussi, elles viennent chercher la question du leadership féminin, alors qui est peut-être un mot un peu galvaudé, mais le scoutisme, il permet aux filles et aux femmes de prendre toute leur place. Et donc je pense qu'il y a une partie des familles qui, en y mettant leurs filles, mais tout autant leurs garçons, viennent aussi chercher cette forme d'émancipation que ça permet.
Salomé, 12 ans, guide de France, ça te parle, cet aspect d'émancipation, de... Voilà.
Oui. c'est vrai que dans les scouts, on est élevés pareil, comme les garçons comme les filles, on fait les mêmes choses, ils font la vaisselle, on fait la vaisselle, on...
Quoi ?
Ça, c'est Adam Deli, auteur de la BD Les Scouts.
On fait tous les mêmes choses et on n'est pas différents, enfin, on n'est pas différenciés par rapport à ce qu'on fait.
Gonelle Boulet.
Oui, c'est vrai que c'était... Alors moi, à mon époque, on était, c'était pas mixte.
Moi non plus. Alors, voilà, c'est bien déçu.
Alors, si j'ai pu me permettre, maintenant tout c'est mixte, hein, les mouvements, oui. En tout cas, scouts et guides de France. Après, je pense qu'il y avait un intérêt dans les deux. Moi, j'ai souvenir qu'à l'âge du collège, où justement tous nos quotidiens étaient ponctués d'histoires de garçons et que ça nous polluait un petit peu les relations parfois entre copines. Voilà, j'ai souvenir d'un apaisement à me retrouver dans un milieu de filles qui n'était pas défini en niant, qui était des filles voilà cool, sympa. Mais personnellement, au moment du collège en tout cas, j'ai souvenir d'avoir apprécié ce moment bizarrement entre filles. Voilà, maintenant c'est mixte, mais en tente, sous les tentes, ils sont entre filles, entre garçons, et ils ont ces petits moments-là aussi du même sexe.
Louis Deveau, vous êtes animateur chez les éclaireuses et éclaireurs de France. Sur cette question de la mixité.
Ben déjà, nous on pense qu'aux éclairs que c'est indispensable. Alors effectivement, nous, aux éclairs, dans le couchage, on laisse le choix aux enfants. On laisse le choix aux enfants d'être filles, garçons, on attend ou pas. Généralement, ils choisissent la non-mixité. Parce que comme l'a dit la présidente des scouts et guides, c'est souvent un moment d'apaisement. Et du reste, c'est l'une de nos 5 valeurs, la coéducation. Éduquer ensemble garçons et filles, leur donner la même éducation, leur prodiguer les mêmes valeurs. Et tout faire ensemble, en fait. Tout faire ensemble.
Tiens, j'aimerais qu'on accueille Christian. Bienvenue, Christian.
Oui, bonjour.
Vous avez 61 ans et vous avez été scout entre l'âge de 9 ans et 17 ans, c'est ça ?
Oh ouais, tout à fait. J'ai été au Scout de France, donc Louveteau, Rangers, Pionniers. Mm-hmm. Et j'en garde un excellent souvenir. Et puis je voulais témoigner justement par rapport au côté éventuellement ringard que peut encore recouvrir la notion de scoutisme. Même à mon époque, c'était dans les années 80-90, on avait plein de copains qui faisaient un tas de choses qui semblaient extraordinaires, modernes, etc. On disait oh, tu vas au scout, tu vas au scout. Mais en fait, le scout, pour moi, ça a été vraiment une école de la vie à tout niveau, enfin au niveau des valeurs, et puis au niveau des choses que j'ai pu vivre, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est au scout que j'ai fumé ma première cigarette en cachette, ouais. Que j'ai rencontré la première fille en douce qui était une guide de
Salomé,
France.
Salomé, bouge tes oreilles s'il te plaît.
Non, mais c'est tout ça, c'est pour dire que c'est vraiment une école de la vie. Puis j'ai des souvenirs vraiment super. Par exemple, au Pionnier, on partait en opération survie. Enfin, c'est aussi une chose qui est sympa chez les scouts. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore comme ça, mais il y avait des réglementations beaucoup plus souples que jeunesse et sport. Mmh. J'étais par ailleurs directeur de colonies de vacances, etc., où c'était très strict, les pauvres chéris, il ne faut pas leur faire ça et ça. Alors qu'au scout, on peut vraiment faire plein de choses. Et j'ai traversé l'Allemagne 3 jours sans argent, on dormait dans des chantiers, etc. Enfin, ça paraît un peu fou, mais quelque part, c'est vraiment des choses formatrices. Il y avait quand même des chefs qui veillaient au grain, etc. Donc, moi, voilà, je voulais témoigner par rapport à ça pour dire n'ayez pas peur d'aller au scout. C'est pas ringard du tout. C'est vraiment une super école. Et moi, ça m'a formé pour toute la vie, hein, sur des valeurs. Je suis engagé maintenant politiquement. Et il y a une bonne partie de mes valeurs humanistes, entre guillemets, qui viennent des scouts.
Ada Abdelli.
Oui, mais je sais pas si aujourd'hui, mais il a raison, parce que je sais pas si aujourd'hui on pourrait refaire tout ce qu'on faisait avant, dans les années 80, on partait, enfin, moi j'ai dormi par terre, dehors, dans des gares, on dormait dans des halls, et je me souviens même d'être allé marcher dans des trucs complètement improbables. Je sais pas si aujourd'hui je pourrais le refaire.
Tiens, merci beaucoup, hein, Christian, de nous avoir appelé, sur la question de la ringardise. Marie Mullet à Brassard, ça c'est une grosse idée reçue, cette ringardise supposée des scouts.
Ouais, c'est une grosse idée. Bon, le film, hein, dont vous avez mis l'extrait,
ne
nous aide pas. Hein.
Mais c'est vrai que ça n'aide pas.
Non, ce film, il n'aide pas. Oui, en fait, on est. Vous regardez, Salomé, c'est une jeune fille de 12 ans, pleine et entièrement dans la société. Elle est ni à côté, ni tradie, ni.
Pourquoi c'est pas ringard ?
C'est pas ringard parce que c'est les jeunes de notre vie de tous les jours. C'est vos copains du collège ou du primaire. C'est en fait, c'est un mouvement pleinement en 2022 qui vit avec les codes de 2022. Donc on vit avec les réseaux sociaux, avec ce que ça pose comme problématique. On vit avec
préoccuper des problématiques liées à l'environnement, par exemple.
Exactement. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui nous poussent chez Scout et Guide de France. On a voté à l'Assemblée générale une résolution pour avancer sur la conversion écologique. Et c'est eux qui nous poussent à faire des camps zéro déchet, à avancer sur la question des transports.
Le handicap, moi, je suis beaucoup invité pour parler de handicap.
Absolument. Et on a beaucoup avancé sur l'accueil. Alors, on n'est pas, franchement, c'est un des points où on peut être encore meilleur.
J'y suis là, vous inquiétez pas.
Mais on avance là-dessus. Non, c'est tout sauf, c'est pleinement 2022, en fait.
Christophe Carichon, je rappelle que vous êtes historien.
Oui, comme il était pleinement 1920, le scoutisme a toujours été un peu ringard. On imagine, en effet, mais ringard hors de cette société confortable. Le scout, oui, c'est vrai, parfois, il force la grand-mère à traverser la rue et puis arrive l'accident, mais tous ces jeunes qui s'engagent sont des jeunes qui sont très généreux. Moi, je suis admiratif aujourd'hui des responsables ou des chefs-chef-ten dans les autres mouvements qui vont donner leur temps, leur samedi, qui vont donner leurs vacances, qui vont passer 15 jours pour passer le BAFA, enfin 15 jours trois fois, plus un BAFD maintenant, quand c'est nécessaire, plus les camps écoles préparatoires, et tout ça pour donner de leur temps, pour donner de leur intelligence, pour donner de leur sourire à des plus petits, et c'est ça qui engage les plus petits aussi derrière eux.
Qui sont les adultes bénévoles qui encadrent ? Quelle est leur formation ?
Donc, c'est des jeunes, jusqu'à présent, c'était quand même beaucoup des jeunes qui avaient été scouts, et qui, donc peut-être une Salomé dans 6 ou 7 ans, qui voudrait être chef et chef-tel. Alors qu'aujourd'hui, chez nous, par exemple, on a 30% des jeunes qui n'ont jamais fait de scoutisme. Et donc, ils viennent parce que leurs copains sont chefs et chef-ten, parce qu'ils ont envie d'aller chercher quelque chose, donner de leur temps, etc. Et donc, c'est des jeunes d'aujourd'hui, de 18 à 24 4 ans à peu près, et qui font des études diverses et variées. Et la force du bénévolat dans la société dans laquelle on vit, elle est extrêmement extrêmement puissante dans ce qu'ils donnent. Et donc après, ils se forment, BAFA, BAFD, et ça, c'est la réglementation qui nous amène à les former.
Louis Deveau.
Oui, à propos des animateurs, du coup, comme j'en suis, j'aimerais bien rebondir.
On vous écoute.
Il se trouve que parmi les animateurs aux éclés, il y a beaucoup, en fait, d'anciens éclés enfants eux-mêmes qui ne veulent jamais arrêter, en fait. Qui veulent jamais arrêter. C'est l'occasion d'un lieu de sociabilité pour eux. On se retrouve. Il y a beaucoup de gens qui, à partir de 17 ans, arrêtent les scouts parce que si on veut continuer, après, il s'agit surtout d'encadrer des enfants, ce qui n'est pas du tout la même expérience. Et il y en a qui veulent continuer et jamais s'arrêter. Et ouais, comme vous l'avez dit plus tôt, ça fonctionne aussi par bouche à oreille. C'est-à-dire qu'il y a un copain qui fait des éclés. Tiens, je vais le rejoindre. Moi, dans mon groupe, on est 5 animateurs bénévoles et sur les 5, il y en a 2 qui sont venus là comme ça en sachant pas ce que c'était et qui ont adoré, quoi.
Les éclés, c'est les éclaireuses, hein, les éclaireurs de France. Christophe ouais. Carichon.
Oui, revenir un petit peu aussi sur le handicap dont tu parlais. C'est vrai que mais dès les années 30, les éclaireurs de France et les scouts de France vont s'intéresser aux enfants malades. C'est ce qu'on appelle le scoutisme d'extension et les guides aussi. Donc on a du scoutisme dans les sanatoriums, la tuberculose étant quelque chose qui frappait beaucoup à l'époque. Mais on a aussi des troupes ou des meutes d'aveugles, de sourds-muets. Et puis le scoutisme, là aussi, c'est le scoutisme qui forme, qui crée quasiment le métier d'assistante sociale, et c'est le scoutisme qui crée le métier d'éducateur spécialisé. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale que les chefs et les cheftaines vont, de tous les mouvements, vont s'engager auprès de ce qu'on appelle l'enfance malheureuse, en amenant justement les valeurs du scoutisme, la méthode du scoutisme, pour des gens qui n'y connaissaient pas du tout.
Alors j'aimerais, on a cité le film Scout Toujours, j'aimerais qu'on s'attarde sur la question de la pédophilie chez les scouts et guides. Quels sont les dispositifs pour empêcher les abus sexuels sur mineurs et comment sont signalés ces abus, Marie Mulet à Brassard? Je sais que vous êtes très proactive sur cette question-là.
Oui, c'est une question dont on s'est emparé il y a plus d'une quinzaine d'années. Il faut regarder parfois la réalité en face, et donc comme tous les milieux où on a des jeunes et des milieux éducatifs, on a eu des problèmes. On fait énormément de prévention, donc il y a un axe sur la formation des encadrants qui est très fort et qui est vraiment visé sur la question de la relation éducative et autour de la manière de se comporter. Donc on a une politique bientraitance, on a des e-learning que doivent suivre nos chefs et cheftaines. Donc on a les formations en ligne obligatoires qui doivent suivre. On a un réseau santé qui est structuré avec des salariés, et puis sur la partie plus réglementaire, on est aux côtés des victimes, et donc on se porte partie civile à chaque fois qu'on pourrait avoir une affaire ou une situation qui sort de ce qui doit être fait.
Tiens, Xavier nous demande si le scoutisme est un antidote aux écrans, ces enfants qui sont accros aux écrans. Alors, Adèle Abdelli, quand on lit votre BD, pas forcément, parce que vos scouts, ce sont pas des icônes comme ça.
Non.
Ils sont très connectés. Ils sont souvent chopés par leur chef en train de d'essayer d'utiliser leur portable.
Vous savez, écoutez, Ali, moi, je suis ce qu'on appelle un grand scénariste, et j'essaye d'être un contemporain, donc je vis avec... Mais oui, parce que même dans le scout, je présume que nos chefs voient encore des enfants avec leur téléphone, avec leur écran. J'ai voulu être au plus près de la réalité.
Quelle est votre politique d'ailleurs en l'espèce sur les écrans? C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui disent, tiens, les scouts, ça va aider peut-être mon enfant, mon pré-ado à être moins accro aux écrans.
En tout cas, c'est un espace où il y en a moins, mais c'est pas un espace où on est contre les écrans. Donc c'est plutôt une logique de comment j'apprends à les utiliser et comment je m'en sers. Donc on sert des écrans, on sert du numérique, mais c'est pas au cœur de ce qu'on fait.
Souvent,
donc il y a plein de moments
on n'en a pas.
Et en plus, si on n'a pas de 4G, c'est compliqué.
Salomé, ça te fait du bien de ne pas être connecté à tes écrans, aux réseaux sociaux?
Je ne le suis pas déjà.
Déjà, là-bas.
Donc, voilà. Ouais. Je vois aussi à l'école qu'il y en a beaucoup qui sont sur les téléphones, qui ont des téléphones très tôt, tout ça. Et je me retrouve aussi dans un milieu où personne n'est avec son téléphone là dans les camps, en tout cas.
Et tu sens que ça fait du bien quand même.
Oui.
Louis Deveau, en quelques mots sur cette question?
Oui, en fait, certains animateurs font le choix de supprimer les téléphones, mais quand on leur supprime pas, on remarque que, en fait, ils n'ont pas le temps d'être sur leur téléphone. Non. Des fois, il y a des animations, donc ils n'ont pas le temps. Le reste du temps, c'est la vie quotidienne, faire à manger, monter la tente. Donc, en fait, ça détache des écrans, c'est sûr, parce que les enfants n'ont pas le temps. Ils font d'autres choses.
Allez, juste après le disque, ne manquez pas, la France entière attend la chronique Ma vie de parent de Gonelle Boulay.
Tous les scouts attendent ça.
Et en attendant, on écoute Benjamin Biolay, Ma route.
J'ai parcouru le monde, j'ai traversé la France de fond en comble, chaque station essence. Traverser la vie comme une ambulance, jamais trop en retard, jamais trop en avance. J'ai parcouru le globe sans la moindre carte, dans la cour de l'école, j'ai lâché quelques tartes. À présent c'est l'automne, et plus rien ne m'étonne, elle ne m'a pas mené seulement jusqu'à Rome. Ma route, ma route, ma route. J'ai passé les frontières, style derviche, tourneur, contrebandier naguère, demande à ta sœur. J'ai passé le checkpoint, tel un épouvantail, en frappant à ta porte, je montais sur les détails. J'ai traversé l'Europe jusqu'à plus jamais soif, enfant de mon époque, sans passion et sans taf. À présent c'est l'hiver, et plus rien ne m'étonne, ni pleurer des rivières, ni les débris de carbone. Je roule paraître meilleur du monde. Je regardais la mer comme un vieillard mourant, mais je levais mon verre à tous les éléments, le nez planté au ciel et même au firmament. Mais la route m'appelle, je suis son vieil amant. Je roule
Benjamin Biolay, Ma route.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas.
Salut.
Merde.
10h53 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Gonelle Boulay, Ma vie de parent. Alors on l'aura deviné, Gonelle, vous avez été scout.
Et oui, Ali, entre mes 11 ans et mes 16 ans, j'ai en effet porté l'uniforme et le foulard.
Vous l'avez apporté d'ailleurs.
Je l'ai apporté. Et je dois dire que j'ai adoré le scoutisme. Et que devenu parent, j'y ai collé mes enfants. Mais je vous rassure, ils sont consentants.
Alors pourquoi avez-vous trouvé cela si génial?
Si je devais résumer tout ce que le scoutisme m'a offert, à moi et à bien d'autres, je dirais en numéro 1 sur le podium, la confiance en soi. En vous attribuant des tâches, des responsabilités variées, chaque scout se découvre capable de bien des choses. Car au départ, pour acquérir sa première insigne, l'enfant utilise ce qu'il sait déjà faire. Et puis au fil des années, pour devenir un scout complet, il doit s'aventurer sur des terrains inconnus. L'animation, l'orientation, l'organisation, la connaissance de la nature. Il va ainsi se découvrir d'autres capacités, qu'il ne pensait peut-être pas forcément avoir. Et cette pédagogie très valorisante aide chacun à se révéler à lui-même, quel que soit son caractère. Alors en deux, moi je dirais que le scoutisme apprend le sens du collectif et puis le goût de l'entraide. Je crois que c'est dans le scoutisme que j'ai appris à demander de l'aide et que ce soit pas une honte, mais au contraire quelque chose de naturel et de positif. Alors connaître ses limites, savoir chercher du soutien pour réaliser quelque chose, réaliser qu'on peut s'appuyer sur les autres pour avancer, savoir aussi apporter son aide, voilà, c'est un cadeau, je trouve, qui peut servir toute la vie.
Alors vous parlez également de joie, d'engagement et de goût pour l'intériorité.
Et oui, la joie est centrale dans le projet Scout. Alors, on vous ordonne pas d'être joyeux, hein, mais cette joie se vit et se communique à travers les jeux, les chants, les aventures, les rassemblements. Et alors que vos enfants vont rechigner parfois, souvent, à donner un coup de main à la maison, voilà qu'en camp, ils font la vaisselle, ils rangent leur tente, ils préparent le repas, ils travaillent, ils marchent des dizaines de kilomètres sous la pluie, le tout en chantant. Alors tout ça peut paraître un peu cucu la praline, mais oui, j'assume, la joie partagée peut faire de grandes choses. Alors effectivement, je parlais du sens de l'engagement aussi. Un aspect qui est fort dans les mouvements, s'engager dans la durée, savoir qu'on compte dans un groupe, que notre comportement a un impact sur les autres, c'est important. Et chez les scouts, ça s'incarne effectivement par des rites très solennels, comme la promesse au coin du feu, l'obtention d'un signe, le changement de chemise quand on grandit. Tout ceci, je trouve, constitue vraiment un cadre structurant pour grandir avec les autres. Et pour finir, dans un monde qui va vite et où l'adolescent en particulier est à un âge où voilà, on a vite fait d'avoir des difficultés à se situer par rapport aux autres, à s'identifier ce qu'on veut vraiment, eh bien le goût de l'intériorité et du discernement que développe le scoutisme est un trésor et une boussole. Alors confessionnels ou laïcs, les mouvements scouts intègrent dans leurs activités des moments de réflexion, de calme, de débat, de partage. Et voilà, apprendre à reconnaître en soi-même ce qui nous rend joyeux, nous, ce qui nous affecte, ce qui nous entriste, ce qui nous motive, ce qui nous enthousiasme. Apprendre à exprimer ce qu'on ressent, à accueillir ce que ressent l'autre. Je trouve que c'est un socle extrêmement puissant pour construire sa personnalité.
Alors, scoutisme, mais également colonie de vacances, maison de quartier, club sportif, tout ceci vous semble central, absolument central dans l'éducation.
Oui, et ma petite conviction du moment, c'est justement que si actuellement, nous les parents, nous sommes si souvent désemparés face à nos enfants, perdus dans la façon d'éduquer, parfois hyper angoissés, culpabilisés dans plein de domaines, c'est un peu à cause de cette parentalité dont on parle partout et qui a pris toute la place. Contrairement aux générations précédentes qui confiaient une partie de l'éducation de leurs enfants à d'autres, avec des mouvements de jeunesse très variés, très développés, nous prenons désormais tous en nos frêles épaules. Alors en Afrique, on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, et je crois que c'est vrai. L'école, les colonies de vacances, le scoutisme, les maisons de quartier, les clubs de sport, les différents mouvements de jeunesse, confessionnels ou non, tout ce qu'on appelle ces tiers-lieux sont des formidables partenaires d'éducation. Car c'est là, en dehors de la famille, qu'on apprend à se confronter à la diversité, à d'autres modèles que le modèle parental, loin de la fratrie où chacun tient son rôle, à construire ses opinions, sa personnalité. Alors voilà, je propose donc de réouvrir bien grand les fenêtres de nos enfants, des fenêtres qui s'ouvrent sur un monde réel et non virtuel.
Vous me disiez, hors antenne, Gwenaëlle Boulay, que tout de même, on fait le panégyrique du scoutisme, ouais, peut-être ce matin, c'est pas adapté à tous les enfants.
Oui, j'ai envie de dire, voilà, on a parfois vécu des super expériences de scoutisme, mais on peut avoir des enfants qui n'adhèrent pas, pour qui ça remplit pas section, qui s'y plaisent pas, et je crois que là, faut vraiment faire attention et pas forcer.
Un mot de conclusion, Ada Abdelli.
Bah oui, c'était le cas pour mes enfants qui n'ont pas du tout été, scouts, mais qui ont quand même réussi dans la vie.
Pourquoi devenir scout? Un dernier mot pour ceux qui nous écoutent.
Moi, vraiment, après j'ai fait vestiaire, j'ai fait de la natation, j'ai toujours été dans des groupes et j'ai appris ça grâce au scoutisme, vraiment. Je voudrais juste remercier Cédric Gourbani, qui est le dessinateur, qui lui n'était pas scout et qui a découvert le scoutisme.
Un dernier mot, Salomé, le mot de la fin, il est pour toi, tiens. Pourquoi devenir scout, en quelques mots? Non. D'accord. Bah, écoute,
c'est très bien dit,
cas,
Salomé.
C'est très bien dit. En tout cas, t'as l'air très heureuse et épanouie chez les scouts. Merci à Ada Abdelli. La BD Scout est publiée chez Michel Lafon. Merci beaucoup. Christophe Carichon, grande figure du scoutisme, c'est publié chez Artege. Merci beaucoup.
Merci
Marie Moulet, à Brassard des scouts et guides de France. Et merci Louis Devaux des éclaireuses et éclaireurs de France. Et merci Salomé d'avoir participé à cette émission. Demain, comment bien choisir son cours de yoga.